Vous écoutez, on lit pour vous.
Consommer la terre à crédit. Une chronique de Gérard Bérubé, parue le 1er août 2023 dans Le Devoir. Le 2 août marque, cette année, la journée du dépassement de la biocapacité de la terre selon les derniers comptes nationaux de l'empreinte de Global Footprint Network, GFN. L'humain consommerait en ressources écologiques comme s'il vivait sur 1,7 planète Terre, calcule l'Organisation internationale vouée au développement durable. Rendu à son creux, la tendance de cette empreinte écologique s'est toutefois stabilisée au cours des 5 dernières années. Il est difficile de déterminer dans quelle mesure cela est dû au ralentissement économique ou aux efforts délibérés de décarbonation, souligne GFN. En fait, elle se maintient en nous depuis 2005. Cela dit, la réduction du dépassement est beaucoup trop lente. Pour atteindre l'objectif du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU de réduire les émissions de carbone de 43 % dans le monde d'ici 2030 par rapport à 2010, il faudrait déplacer le jour du dépassement de la Terre de 19 jours par an pendant les 7 prochaines années. Plus près de nous, si tous consommaient comme les Canadiens, ce jour arriverait le 13 mars. Le Canada est ici rejoint par les États-Unis et les Émirats arabes unis. À l'opposé, si tous consommaient comme les Jamaïcains, ce jour du dépassement se déplacerait au 20 décembre. Le Canada se situe à la 5e position au bas de l'échelle avec le Qatar, 10 février, qui ferme la marche du classement 2023. Outre un recalibrage de la consommation et une récupération-recyclage circulaire à grande échelle, GFN ajoute que, parfois, de simples changements pourraient contribuer à déplacer ou à éloigner ce jour d'épuisement de la biocapacité de manière importante. Parmi les plus fortes contributions présentées sur son site, avec le nombre de jours de déplacement entre parenthèses, fixer un prix de 100 US par tonne de carbone, 63 jours. Si une famille sur deux avait un enfant de moins et que le projet d'enfanter était reporté de 2 ans d'ici 2050. Le groupe d'experts reprend l'estimation de l'ONU voulant que, si nous continuons comme maintenant, nous serons alors 9,7 milliards d'habitants. Si chaque mère ou père avait en moyenne 1,8 enfants, soit 0,9 enfants par personne, contre 2,3 actuellement, et que la parentalité était retardée de 2 ans, nous serions à 7,7 milliards en 2050. En supposant que l'empreinte écologique de l'humanité par habitant reste au niveau de 2020, soit à 2,47 hectares globaux, HAG par personne, la différence en 2050 serait de 49 jours. Si la moitié du monde mettait en œuvre un Green New Deal avec le niveau d'ambition de l'Union européenne, 42 jours au cours des 10 prochaines années, les villes intelligentes tirent parti des technologies existantes pour les bâtiments, les processus industriels et la distribution d'électricité et réduisent la dépendance au transport énergivore. Si elle était appliquée dans le monde entier, cela pourrait entraîner un déplacement de 29 jours. Si l'on produisait 75 % de l'électricité à partir de sources à faible émission de carbone contre 39 actuellement, 26 jours. Si l'investissement et l'épargne décarbonaient le système électrique mondial de 50 %, 22 jours. De plus, en matière de services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, les technologies commerciales prêtes à l'emploi existantes pour les bâtiments, les processus industriels et la production d'électricité pourraient déplacer le jour du dépassement d'au moins 21 jours, sans aucune perte de productivité ni de confort. Si l'hydrogène vert remplaçait 33 % du carburant des avions et 50 % de la demande industrielle de combustibles fossiles, 18 jours. Avec l'ajout de capacités de stockage d'énergie généralisées pour les sources renouvelables. Cela se greffe à l'effet qu'aurait l'adoption massive des énergies renouvelables sans stockage, 15 jours. Si nous réduisons de moitié le gaspillage alimentaire dans le monde, 13 jours. Avec l'installation de nouveaux ensembles résidentiels dans les zones urbaines existantes pour éviter l'étalement urbain, 12 jours. Si la durée des semaines de travail était réduite sans réduction de salaire, 11 jours. Également 11 jours en appliquant le principe de 15 minutes à nos zones urbaines. Avec une réforme de la répartition de l'espace de stationnement dans les villes, 10 jours. Même nombre de jours d'ici 2050 avec l'adoption d'éoliennes terrestres. Ah oui! Pour le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, la mise en œuvre mondiale de compteurs d'énergie intelligents et d'une tarification dynamique réduirait les émissions de carbone provenant de la production d'énergie de 5 % 3 jours. Et si l'utilisation de sécheuses domestiques était réduite de 75 % 1,3 jours. Des idées supplémentaires. On en retrouve une cinquantaine d'autres sur le site de GFN dont l'impact est plus faible. Mais puisque chaque geste, même petit, compte, en voici quelques-unes. Production de bœuf à faible impact, 5 jours. Élimination de la consommation de viande 1 jour par semaine, 1,8 jours. Remplacement de 50 % de la consommation mondiale de viande par des substituts à base de plantes, 7 jours. Si l'on inclut les émissions de méthane, l'impact est plus grand. Rénovation des logements multifamiliaux permettant de réduire de 80 % à 90 % l'énergie nécessaire au chauffage et à la climatisation, 5 jours. Rénovation des maisons unifamiliales avec l'objectif de réduire les charges énergétiques de chauffage et de climatisation, de 50 % à 70 % 7 jours. Réduction de moitié de l'empreinte écologique du transport aérien à des fins touristiques, 1 jour. Remplacement de 75 % des voyages d'affaires mondiaux par la vidéoconférence, 0,8 jours. Si 50 % des quelque 3000 mines de charbon émettrices de méthane dans le monde mettait en œuvre une technologie de capture et de destruction du méthane de 2 à 4,5 jours. Mettre fin au plastique à usage unique. L'effet total est inconnu, mais probablement très important. Plantation d'arbres, 3 jours d'ici 2050. Utilisation d'arbres pour refroidir les villes et réduire le besoin de climatisation, 0,9 jours. Mise en œuvre à grande échelle de techniques de culture intercalaire d'arbres, 2,1 jours d'ici 2050. L'adoption de programmes d'autopartage généralisés pour l'utilisation de véhicules automobiles, 3 jours. Mise en œuvre à grande échelle de redevances de congestion qui reflètent le coût réel de la conduite pour la société et l'environnement, 5 jours, et abaissement des limites de vitesse pour les voitures, 0,6 jours. Adoption de l'énergie solaire photovoltaïque distribuée, 5 jours d'ici 2050, d'éoliennes en mer, 1,2 jours d'ici 2050, de l'énergie géothermique, 0,8 jours d'ici 2050. Passage des véhicules alimentés au combustible fossile à ceux fonctionnant à l'électricité, 2,5 jours avec le bouquet électrique actuel. Combiné à l'électricité propre, le nombre de jours serait encore plus grand. Adoption généralisée des vélos électriques. Elle pourrait réduire l'utilisation de la voiture de 15 % supplémentaire, 4 jours. une meilleure infrastructure cyclable pourrait augmenter la proportion de déplacements en vélo jusqu'à 35% de tous les déplacements. 9 jours. L'adoption généralisée des bicyclettes cargo peut réduire l'utilisation de la voiture de 10% supplémentaire. 2 jours. Utilisation de bibliothèques de prêt pour réduire d'un tiers la consommation d'articles ménagers durables. 3 jours. Si la durée de vie des meubles de maison est doublée grâce à la réutilisation, à la revente et à la remise à neuf. 1 jour. Si nous achetions 80% de notre nourriture localement, 1,6 jours. C'était « Consommer la terre à crédit », une chronique de Gérard Bérubé parue le 1er août 2023 dans Le Devoir.
Soulager la douleur chronique grâce à la psychothérapie. Un texte de Catherine Handfield paru le 14 septembre 2025 dans La Presse. Est-ce qu'une thérapie psychologique peut apporter un soulagement substantiel et durable de la douleur chronique, du moins chez certaines personnes? Cette idée intéresse de plus en plus les chercheurs et elle fait son chemin dans l'univers de la douleur chronique. Au Centre universitaire de santé McGill, un deuxième groupe de patients entreprendra cet automne une nouvelle forme de thérapie, la Pain Reprocessing Therapy, PRT, ou thérapie de reconditionnement de la douleur. L'approche a été développée dans les dernières années par des chercheurs américains en psychologie et neurosciences. L'objectif? Aider les patients à reconceptualiser leur douleur en leur faisant prendre conscience que celle-ci n'est pas due à une blessure qui refuse de guérir, mais plutôt à une activité du cerveau sans danger. Est-ce que cette thérapie peut fonctionner chez tout le monde? Non. Citation. Ça s'applique à une catégorie de personnes qui ont une douleur dans laquelle le cerveau est très, très impliqué dans la perception. Fin de citation, explique la psychologue Gabrielle Pagé, responsable des rencontres de PRT à l'unité de gestion de la douleur Allen Edwards du CUSUM. À la base, dit-elle, les chercheurs américains l'ont testé auprès de patients souffrant de maux de dos. Citation, c'est indiqué pour la fibromyalgie, pour les douleurs généralisées, en fait, quand il n'y a pas une cause structurelle claire. Fin de citation, résume Gabrielle Pagé, rencontrée à l'Hôpital général de Montréal, près du Mont-Royal. La douleur chronique, celle qui dure plus de 3 à 6 mois, est une condition très hétérogène, complexe, précise sa collègue Louisia Starnino, psychologue. Il en existe 3 classes, la douleur nociceptive, due à une lésion d'un tissu, et la douleur neuropathique, due à une lésion nerveuse, sont les formes plus connues et les plus étudiées. La 3e classe a été officiellement reconnue en 2017, c'est la douleur nociplastique, celle qui perdure sans preuve de lésion. Les mécanismes ne sont pas entièrement compris, mais c'est le système nerveux central qui maintiendrait la douleur en traitant de façon anormale les signaux de douleur. Le cerveau, en quelque sorte, hyper-réagirait à des stimuli de douleur. La fibromyalgie, le syndrome du côlon irritable et les maux de dos non spécifiques, entre autres, sont classés dans cette catégorie. Citation. C'est comme s'il y avait un système d'alarme en permanence dans la maison, alors que tout le monde est en sécurité. Fin de citation, dit Amanda Gissondi. La douleur chronique ne tombe pas toujours dans une catégorie de façon nette. Elle peut être mixte. Citation, c'est la partie nociplastique qu'on peut venir moduler, parfois même transformer avec des thérapies en psychologie, dit Louisa Starnino. Qu'elle soit due à une lésion ou à un problème de perception du cerveau, la douleur est bien réelle et valide, insistent les 3 professionnels. La thérapie de reconditionnement de la douleur comporte d'ailleurs un volet d'éducation pour faire comprendre aux patients que leur douleur est vraie, mais que leur cerveau a simplement un grand rôle à jouer dans son origine. Les patients identifient ensuite des preuves à cet effet. Par exemple, ils perçoivent la douleur juste à l'idée de se lever. Puis, pour briser le cycle douleur-hypervigilance, ils s'exposent tranquillement, cessent de se protéger pour que le cerveau, finalement, crée de nouvelles connexions. Chez certains patients, la thérapie semble très, très bien fonctionner. Chez d'autres, moins, convient la psychologue Gabrielle Pagé, qui a accueilli une première cohorte de 7 patients au printemps 2025. L'équipe réfléchit à des façons d'adapter la thérapie au profil souvent complexe des patients dirigés vers le CUSUM. Citation, c'est un outil de plus qui s'ajoute à d'autres interventions aussi très pertinentes qui se font en douleur chronique. Fin de citation, résume Gabrielle Pagé. Multidisciplinaire. En 2021, le journal The Lancet a invité ses lecteurs à déconstruire l'idée reçue selon laquelle la douleur chronique témoigne d'une blessure persistante qui nécessite l'arrêt des activités. Citation. En réalité, la douleur chronique est souvent le résultat d'une signalisation neuronale anormale. Fin de citation. Pouvait-on lire dans l'éditorial qui prônait une approche multiple abordant à la fois les sphères biologiques, psychologiques et sociales. Le coffre à outils du patient peut inclure des médicaments et des infiltrations, mais aussi de la physiothérapie, de la psychothérapie, des techniques de méditation, de l'activité physique, énumère l'infirmière Amanda Gissondi. Le plan de traitement doit être cohérent. La thérapie PRT, qui sous-entend que c'est le cerveau qui joue des tours, ne serait pas compatible, par exemple, avec des injections de cortisone. Quel que soit son type, la douleur est influencée à divers degrés par la psychologie. Gabrielle Pagé donne l'exemple d'une personne qui se cogne l'orteil. Citation. Si je suis en train de me chicaner avec mon chum, ça va me faire beaucoup plus mal que si je viens d'apprendre que j'ai une promotion au travail. Fin de citation, illustre-t-elle. Les gens atteints de douleurs chroniques vivent souvent de la détresse, de l'anxiété, une dépression, un problème de dépendance. Des cercles vicieux peuvent ainsi s'installer. Citation. Traiter la douleur chronique, ce n'est pas juste donner un traitement pharmacologique. Il faut aussi la comprendre, l'accepter, puis trouver des façons de gérer le stress qui l'accompagne. Fin de citation. Résume Amanda Gissondi. D'autres interventions en psychologie sont utilisées et visent généralement à améliorer le fonctionnement du patient en s'attardant à sa tendance à catastrophiser sa douleur et en l'amenant à mieux la gérer, à l'accepter et à s'engager dans des activités valorisantes. Atteint de dystrophie musculaire et opéré plus de 30 fois dans sa vie, Michael Donnelly ressent constamment des décharges électriques dans son corps. Pour préserver sa santé mentale, il fait beaucoup d'activités physiques et l'équipe l'a aidé à revoir ses attentes, à voir les choses autrement. Il consacre désormais son énergie à ce qu'il peut faire plutôt qu'à ses limites. Citation. La douleur est encore là, mais j'arrive maintenant à me concentrer sur mon quotidien. Fin de citation, dit Michael, aujourd'hui mentor d'un groupe de soutien. La douleur chronique affecte une personne sur 5 au Canada. Selon Santé Canada, le coût total en soins de santé et en perte de production s'élevait à 40 milliards de dollars en 2019. C'était « Soulager la douleur chronique grâce à la psychothérapie », un texte de Catherine Huntfield paru le 14 septembre 2025 dans La Presse.
L'innovation technologique pour les personnes à mobilité réduite, où en est la recherche au Québec? Un texte de Virginie Archambault, paru dans le numéro 162 au printemps 2024 dans le magazine Paraquad. Entrevue avec Alexandre Campeau-Lecourt, ingénieur PhD. Ingénieur mécanique de formation, Alexandre Campeau-Lecourt est aujourd'hui chercheur et ingénieur en ingénierie de la réadaptation, professeur agrégé à l'Université Laval et propriétaire de la société Assistive. Il se consacre au développement de technologies avancées, robotique, mécatronique, algorithmes intelligents, capteurs. et à leur intégration dans le processus de réadaptation pour offrir une meilleure qualité de vie aux personnes vivant avec des incapacités. De manière générale, pouvez-vous nous nommer quelques technologies innovatrices sur lesquelles vous et vos collègues en recherche avez travaillé dans les dernières années pour les personnes blessées médulaires? Il y a en effet quelques technologies qui ont été développées et transférées commercialement, ou bien qui sont sur le point de l'être. Tout d'abord, il y a Assist Mouse, un logiciel de contrôle de la souris, avec des mouvements de la tête à l'aide d'une webcam. Nous avons également développé, sous la forme d'un projet individualisé, un protège-touche pour les claviers d'ordinateur, tablettes et téléphones cellulaires, permettant d'écrire plus facilement pour pallier à un manque de dextérité. Un support à verre, conçu pour qu'une personne tétraplégique utilisant un fauteuil motorisé puisse boire facilement sans utiliser ses mains, et un support à téléphone cellulaire pour des personnes utilisant un fauteuil manuel ou motorisé, sont présentement testés pour une éventuelle commercialisation par une compagnie de technologie d'assistance. Parmi les projets qui sont présentement en développement, il y a une orthèse de doigts pour aider à la préhension d'objets, une cuillère équilibrée pour aider avec les contractures ou les limitations de mouvement, ainsi qu'un support de bras qui s'installe sur le fauteuil roulant pour aider la personne à reprendre le poids de son bras, ce qui facilite plusieurs activités telles qu'être à l'ordinateur, manger ou prendre un téléphone. Nous travaillons également à une aide à l'alimentation à faible coût avec amplification du mouvement nécessitant un mouvement minime. Pour les technologies personnalisées, nous avons fait une modification à une orthèse de jambe en ajoutant un bras de levier pour faciliter la levée de sa jambe. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le programme philanthropique en collaboration avec des étudiants de l'Université Laval développé dans les dernières années? À qui ce projet a-t-il servi? En collaborant avec le milieu clinique et différents collaborateurs, nous recevons des demandes de conception d'aide à la mobilité qui sont propres à une seule personne. Il ne nous est pas possible de demander une subvention de recherche pour une demande individuelle comparativement à une étude pour une plus large population. Parallèlement, nous avions vu qu'à Vancouver et en France, des organismes à but non lucratif se dédiaient entièrement à ce type d'adaptation individualisée, souvent conçue avec l'impression 3D. C'est ce qui nous a motivés à commencer à mettre sur pied un tel programme au Québec, pouvant servir à plusieurs personnes ayant des limitations motrices et neurologiques. Les profils des personnes ayant fait une demande dans le cadre du projet pilote étaient tous différents, et ce qui est intéressant avec ce programme, puisque nous sommes en mesure de développer des produits pour un besoin spécifique qui servira au quotidien. Il y a deux volets. Les projets de recherche qui sont développés sur le long terme et le programme philanthropique dont nous venons de discuter, tous deux impliquant des professionnels de recherche et des étudiants. En 2021, vous aviez pour objectif de développer un support de bras trois dimensions à faible coût pour les personnes ayant une limitation aux membres supérieurs. Où en êtes-vous et quels sont les enjeux reliés à un tel projet? Les développements se poursuivent à la suite des différents essais que nous avons faits avec plusieurs versions. Nous en sommes rendus à la troisième version jusqu'à présent. Il y aura également des validations à faire afin de vérifier s'il y a des améliorations ou des modifications à effectuer. Nous ferons des optimisations pour diminuer le coût de fabrication. La manière dont les pièces sont conçues peut prendre beaucoup de temps et de manipulation d'usinage. Nous tentons de réduire grandement le temps relié aux techniciens d'usinage en pensant à différentes stratégies pour y arriver, ce qui, au final, réduit les coûts. L'objectif reste tout de même que cette technologie entre dans les critères de remboursement des agents payeurs, permettant ainsi une plus grande accessibilité. Les enjeux sont 1. Que ce soit bien intégré au fauteuil pour que ça reste fonctionnel et 2. Que ce soit adaptable à différentes personnes sans que des modifications individualisées pour chacune soient effectuées. Pour ce faire, nous avons conçu des mécanismes ajustables selon les besoins de chaque utilisateur. Selon vos observations, quels sont les principaux facilitateurs et obstacles depuis l'arrivée de la technologie d'assistance pour les personnes en situation de handicap? Je dirais qu'il y a deux principaux facilitateurs à la création de nouvelles technologies d'assistance. La présence de grands besoins de la part des personnes à mobilité réduite et les professionnels de la santé des centres de réadaptation qui sont très impliqués dans le développement de celles-ci et connaissent bien les besoins de leurs patients. Pour ce qui est des obstacles, nous remarquons qu'il y a un fossé entre ce qui est réalisé en recherche et ce qui peut être réellement utilisé au quotidien. Par exemple, dans les articles scientifiques, nous pouvons voir des robots utilisant l'intelligence artificielle. Mais s'ils étaient réellement produits, ils coûteraient une fortune et ne seraient ainsi pas accessibles aux personnes qui en ont besoin. De plus, il arrive souvent que les technologies soient développées par des équipes d'un seul domaine plutôt que par une équipe interdisciplinaire, ce qui crée de belles innovations mais qui ne peuvent pas fonctionner dans la réalité. Nous pouvons voir différentes technologies d'intelligence artificielle qui sortent, mais elles doivent être adaptées aux technologies d'assistance déjà existantes, telles qu'un fauteuil roulant, un cellulaire ou autre, et utilisées par les personnes à mobilité réduite. Nous avons ainsi souvent besoin de développer des produits intermédiaires pour que le tout s'intègre et fonctionne ensemble. Pour terminer, le plus grand frein au développement de technologies d'assistance est le coût, car elles sont rarement remboursées par les agents payeurs. Pour terminer, quel projet de recherche impliquant des innovations technologiques aimeriez-vous développer dans le futur? Nous avons de nombreux projets en cours présentement. Nous travaillons à des technologies purement mécaniques, d'autres robotisées, et certaines sont un mélange des deux. L'objectif pour chacun de ces différents projets est l'utilisation et l'appréciation par le plus de personnes à mobilité réduite possible à l'échelle mondiale. Nous avons plusieurs projets concernant les adaptations au quotidien, des robots d'assistance et des systèmes pour la réadaptation physique. Nous souhaitons notamment développer des robots de réadaptation en prévention des blessures, par exemple un exosquelette adapté pour le milieu du travail. Les différentes technologies en développement énumérées plus haut font également partie des projets en cours pour lesquels nous travaillons au perfectionnement et à l'intégration dans le quotidien des personnes à mobilité réduite. C'était l'innovation technologique pour les personnes à mobilité réduite. Où en est la recherche au Québec? Un texte de Virginie Archambault paru dans le numéro 162 au printemps 2024 du magazine Paraquad.